La guerre hybride que mène l'Occident depuis plus d'un an contre le Mali, lequel Mali étonne et dépasse tous les analystes rien que par sa contre-stratégie extrêmement complexe et qui en anticipe chaque coup avant de le neutraliser royalement, commence à s'essouffler. Et comment? Alors même que la France en est désormais à frapper en coulisses à la porte de Bamako pour lui demander de revenir sur ses exigences et surtout renoncer à la tenue de cette réunion du Conseil de sécurité, où il veut mettre avant des preuves sur la complicité de Barkhane avec les terroristes, preuve évidemment incendiaire qui pourrait balayer d'un revers de main la présence non seulement de l'armée française à travers tout le Sahel, mais encore ses armées otaniennes alliées. Une curieuse affaire vient d'éclater, comme à tout hasard, sur la scène malienne, une affaire à peu près de la même nature que l'affaire des caricatures insultant anti-prophète de l'islam de Charlie Hebdo. La voici, cette affaire, telle que rapportée par RFI. La diffusion le 30 octobre sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle un homme tient des propos insultants contre la religion monothéiste enflamme le Mali. La vidéo, qui dure un peu moins de 3 minutes, a commencé à circuler dimanche 30 octobre et est devenue virale en début de semaine. Elle a suscité l'émotion de beaucoup de Maliens. La vidéo commence par Otep, salutation des adeptes du kémitisme, mouvement spirituel inspiré de l'Égypte antique, et souvent qualifié de secte. Le kémitisme prétend défendre la culture africaine contre l'Occident et contre les religions monothéistes comme l'islam ou le christianisme. Et RFI d'ajouter, l'homme qui se filme dans une petite boutique et se présente sous le nom de Mamadou Dembélé insulte l'islam, son dieu et son prophète en bambara, avant de fouler aux pieds le Coran. Un buzz inhabituel et extrêmement choquant dans un pays très majoritairement musulman. Le ministère malien des Affaires religieuses a officiellement condamné ces actes et assuré que son auteur serait traduit devant les instances indiquées. De son côté, le Haut Conseil islamique appelle les Maliens au rassemblement pour la défense de l'islam vendredi 4 novembre. Si les raisons de la colère sont très largement partagées dans le pays, le communiqué du gouvernement et l'appel du HCIM étonnent également plus d'un. Ne donne-t-il pas trop de poids aux élucubrations d'un homme qui se filme tout seul devant des sachets de lait en poudre? Une secte païenne de l'Égypte ancienne, plus ou moins proche d'Israël, avec une curieuse idée de peuple élu et qui fait soudain son apparition sur la scène malienne, et ce alors qu'elle en blasphémère le livre sacré, et une RFI qui s'étonne et s'emporte même contre la violence de la réaction des Maliens, soulignant implicitement le rôle qu'a joué le facteur islam dans les manifs anti-France de 2020, avouons qu'il y a trop d'indices réunis ensemble pour que l'observateur averti ne doute d'une affaire montée de toutes pièces et destinée à semer la discorde interconfessionnelle dans un Mali où les dirigeants ont si subtilement joué le jeu en à peine plus d'un an qu'au lieu des heures interethniques et interconfessionnelles Peul Dogon, Touareg, Notouareg, datant de l'ère Barkhane, ce sont les terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda qui s'entretuent. Le 1er novembre, l'AFP a rapporté mort dans l'âme ceci. Des combats entre groupes armés ont fait ces derniers jours des dizaines de morts dans le nord du Mali, dans les régions de Menaka et Gao, en proie à des violences djihadistes. S'il est vrai que l'AFP s'efforce de noircir à l'extrême la situation dans le nord du Mali et à en remettre la responsabilité sur le dos de l'État malien, façon parfaitement perfide d'insinuer qu'en l'absence de Barkhane, la sécurité s'effondre, il n'en reste pas moins vrai que les médias français aient forcé à bien reconnaître que la guerre, ce sont les ennemis terroristes du Mali qui l'amènent les uns contre les autres et pas contre le peuple malien, ce qui marque un net retournement de tendance et une grande victoire à la fois pour le peuple et les femmes. D'ailleurs, cette affaire de vidéo pourrait totalement être liée à cet enchaînement de succès que le Mali continue à cumuler depuis qu'il a mis à la porte l'armée d'occupation française, quitte à prendre en main son propre destin. Alors que les vrais tireurs de ficelles du kémiliste de l'histoire cherchaient via cette affaire à faire remonter Le HCIM et partant une majorité de Maliens contre les généraux commence, c'est une totale harmonie qui se dégage dans cette affaire. Et RFI en fait tristement le constat. Le HCIM s'était élevé contre le pouvoir du temps des manifestations qui avaient précédé le renversement du président Keïta en 2020. Avant le rassemblement de ce vendredi, l'actuel président du HCIM, cher Chérif Ousmane Madani Haïdara, a personnellement appelé à l'apaisement et au respect des initiatives prises par les autorités de transition. Alors le Mali, roi de la contre-guerre hybride? Décidément, le Burkina Faso est loin de fournir à l'actuel sultan ce qu'il souhaitait avoir après le dernier coup d'État au pays et la prise du pouvoir par Ibrahim Traoré. Les États-Unis vont exclure le Burkina Faso de l'accord commercial liant les États-Unis aux pays africains annoncé mercredi 2 octobre à la Maison-Blanche, justifiant cette décision par l'absence de progrès vers un retour de la démocratie après les deux coups d'État militaires du pays. J'ai pris cette décision car je déterminais que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas mis en place ou fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique, élément nécessaire dans le cadre du programme AGOA, African Growth Opportunities Act, a justifié le président Biden. L'absence de progrès vers un retour à la démocratie signifie l'absence de coopération, ou pour mieux dire, de soumission de la part des autorités burkinabées envers les États-Unis. Mais cette décision des États-Unis est du déjà vu, et on se rappelle qu'en janvier 2022. L'administration de Joe Biden avait annoncé avoir exclu l'Éthiopie, le Mali et la Guinée de l'AGOA, un accord commercial liant les États-Unis à l'Afrique. Les États-Unis ont exclu aujourd'hui l'Éthiopie, le Mali et la Guinée du programme de préférence commerciale de l'AGOA en raison d'actions prises par chacun de leurs gouvernements en violation des statuts de cet accord. Un scénario déjà vu, des pressions sans résultat et des accusations sans fondement. Durant toutes ces dernières années, la seule arme des États-Unis contre les pays qui ne l'obéissent pas est l'arme de sanctions et de pressions diplomatiques et économiques. Dans un communiqué, l'ambassadrice américaine au commerce, Catherine Tai, a insisté sur la nécessité que le Burkina prenne les décisions nécessaires pour répondre aux conditions de l'accord et au retour de la démocratie. Je vais fournir au Burkina Faso une feuille de route claire leur permettant de réintégrer le programme et notre administration va travailler avec eux afin d'y parvenir, a ajouté Madame Tai. Mais le Burkina Faso est-il prêt à se soumettre à cette feuille de route, ou plus précisément aux dictats américains? Bien sûr que non, puisque le président burkinabé est décidé de suivre le chemin de son voisin malien. Et c'est dans sa dernière visite que l'homme burkinabé a réitéré cette attention. Le capitaine Traoré est venu accompagné du chef d'état-major général des armées burkinabées, David Cabré, et de son ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly. Car, comme l'expliquait une source proche du président de la transition, il allait être question d'améliorer la coopération opérationnelle avec les Maliens. Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako, avait souligné la présidence du Burkina Faso dans un communiqué publié le 2 novembre. Les deux parties évoquent clairement le renforcement de cette coalition interafricaine qui vise à exclure toutes les forces interventionnistes de cette région et d'augmenter le poids des armées nationales. Les autorités de RDC ont décidé samedi 29 octobre, lors d'une réunion d'urgence, dirigé par le président Tshisekedi, d'expulser Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Cette date coïncide avec la prise de Rutshuru et Kiwanja dans l'est de la RDC par le groupe armé M23. Où en sont les relations entre les deux pays réellement? Luc Michel, les géopoliticiens, s'expriment sur le sujet.
Voilà donc aujourd'hui, Tshisekedi est au pied du mur avec le Rwanda. Les négociations avec le Rwanda ont échoué et il est donc poussé à la guerre contre le Rwanda. c'est une catastrophe pour les Américains parce que des deux côtés, à Kigali comme à Kinshasa, ce sont des agents américains. Mais Tshisekedi doit tout miser sur l'hostilité que le Rwanda, parce qu'il a des élections présidentielles qui vont arriver et parce que le peuple congolais est remonté contre les Rwandais. Il doit donc jouer la carte de la guerre contre le Rwanda. Mais évidemment, c'est une catastrophe pour les Américains parce que ça va plonger la région des Grands Lacs dans une instabilité et pas l'instabilité que les Américains souhaitent parce qu'évidemment, ici, ça va trop loin. Le problème de Tshisekedi, c'est qu'évidemment, il a mécontenté tout le monde et que la carte anti-rwandaise, c'est la carte qui est populaire actuellement au Congo. L'ancien homme des Américains, Fayulu, qui est député au Parlement congolais, qui était destiné à être le président à la place de Tshisekedi pour les Américains à l'issue de la dernière présidentielle, c'est l'homme aujourd'hui qui anime le lobby pro-guerre contre le Rwanda. Et les anciens associés de Tshisekedi, qui l'a roulé également, des gens comme Katumbi par exemple, se sont réconciliés avec Kabila. Kabila, son ancien parti présidentiel, le PPRD, et sa coalition présidentielle, le FCC, se remettent en orbite dans l'optique de la prochaine présidentielle. Donc Tshisekedi doit jouer la comédie de l'austérité au Rwanda. Pas du tout. C'est-à-dire, c'est une carte, bon, il doit jouer pour neutraliser l'opposition populaire au Congo et il doit se présenter comme un président patriote qui veut gouverner dans un espèce de gouvernement d'union nationale. Mais c'est un hypocrite. Si ce qu'il dit, c'est un agent triple, il a fait toute sa carrière, il est au service de ce qu'on appelle la France-Afrique à la Belge, les réseaux libéraux du Parti libéral en Belgique. C'est un agent du Quai d'Orsay. C'est toujours un homme qui est un employé de l'Atlantic Council, le think tank américain qui est tout puissant pour piloter la politique américaine dans la région des Grands Lacs et qui a proposé, notamment en 2012, un plan de scission en cinq parties différentes du Congo, prétendant que l'État congolais était trop grand pour être gouverné de façon unitaire. Dès lors, évidemment, il doit jouer la seule carte qui lui reste, celle du président patriote, mais c'est de l'hypocrisie. Évidemment, il ne représente pas cette carte-là.
La Tanzanie et la Chine signent 15 accords lors de la visite de la présidente Samia Suluhu à Pékin. Les accords concernent notamment des projets d'infrastructure, l'annulation d'une partie de la dette et l'application d'une nouvelle politique tarifaire sur les importations chinoises en provenance de la Tanzanie. La Tanzanie et la Chine ont signé donc 15 accords de coopération économique au deuxième jour de la visite d'État qu'effectue la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan à Pékin. Signé lors d'une cérémonie présidée par Mme Hassan et son homologue chinois Xi Jinping, ces accords concernent notamment des projets d'infrastructure, une nouvelle politique tarifaire sur les importations chinoises en provenance de la Tanzanie et l'annulation d'une partie de la dette de Dodoma envers Pékin. Selon South China Morning Post, le quotidien chinois, l'un des plus importants accords concerne la rénovation du chemin de fer Tanzanie-Zambie et le coût de la rénovation de cette ligne ferroviaire de 1860 km qui relie le port tanzanien de Dar es Salaam à la province minière zambienne de Copperbelt n'a pas été dévoilé. En août dernier, l'ambassade de Chine en Zambie avait annoncé que la société d'État China Civil Engineering Construction Corporation a été retenue pour réaliser l'étude de faisabilité de la rénovation du chemin de fer construit dans les années 70 par la Chine. D'autres accords portent sur un prêt de 56,72 millions de dollars à des conditions concessionnelles destinées à financer la construction du deuxième terminal de l'aéroport international de Zanzibar et une subvention de 13,6 millions de dollars en faveur de l'État tanzanien. Le Kenya déploie ses premiers soldats en RDC pour aider et stabiliser la situation sécuritaire. En juillet, l'ancien président Uhuru Kenyatta annonçait que l'EAC mettrait en place une mission militaire pour apaiser les tensions sécuritaires en RDC. Cette semaine, Nairobi a déployé ses premiers hommes dans le cadre de cette force qui inclut également l'Ouganda, le Burundi, le Soudan du Sud. Le Kenya a déployé donc ses premiers soldats dans le cadre d'une mission militaire en République démocratique du Congo. Mercredi 2 novembre, le président kényan, William Ruto, a procédé à la cérémonie de lancement de la mission. Le personnel déployé par Nairobi aura pour mission d'appuyer les soldats congolais dans la lutte contre les groupes armés. Ces derniers multiplient les attaques contre les positions des forces armées congolaises FARC, mais également contre les civils dans l'est du pays, notamment dans la région de Nord-Kivu et de l'Ituri. Le déploiement s'inscrit dans le cadre de la mission militaire convenue par les pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, pour pacifier le pays d'Afrique centrale. Sous le leadership de Kenya, cette mission avait été annoncée il y a quelques mois lors d'un sommet organisé pour apaiser les relations entre la RDC et le Rwanda, accusé de fournir un appui aux rebelles du M23, dont les attaques contre le Congo se sont accentuées depuis fin 2001. En tant que voisin, le destin de la RDC est intimement lié au nôtre. Nous ne permettrons à aucun groupe armé, criminel ou terroriste de nous priver de notre prospérité commune, a déclaré William Ruto lors de la cérémonie de déploiement. Bien que le nombre total des troupes qui sera déployé n'ait été divulgué, la nouvelle force devrait comprendre, outre le Kenya, des soldats de l'Ouganda, déjà présents militairement en RDC, du Burundi, du Soudan du Sud, le Rwanda, dont la participation à l'opération a été vivement rejetée par Kinshasa, ne devrait pas envoyer de contingent. Le FMI suspend son aide au Tchad après le refus par les créanciers d'une demande d'allègement de dette. Co-présidé par la France et l'Arabie Saoudite, le comité des créanciers du Tchad avait estimé en octobre dernier que ce pays n'a pas besoin d'un allègement de sa dette pour le moment, compte tenu de la flambée des prix du pétrole. Le Fonds monétaire international suspendra donc ses décaissements en faveur du Tchad au titre de la facilité élargie de crédit FEC jusqu'à ce que les créanciers de ce pays acceptent un allègement de la dette, a annoncé la direction adjointe du département Afrique du FMI Catherine Patio mardi 1er novembre. Nous avons déjà effectué quelques décaissements en faveur du Tchad dans le cadre d'un programme de financement. Mais nous ne pouvons plus le faire jusqu'à ce que les créanciers acceptent un allègement de la dette du pays, a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à Bloomberg. Les créanciers du Tchad avaient estimé le 13 octobre dernier que ce pays africain n'a pas besoin d'un allègement de sa dette pour le moment, compte tenu de la flambée des prix du pétrole, tout en s'engageant à se réunir à nouveau au cas où N'Djamena aurait du mal à mobiliser des ressources financières. Côte d'Ivoire Terminal a procédé le 2 novembre 2022 en présence des autorités portuaires au démarrage effectif des activités commerciales de nouveau terminal à conteneurs du port d'Abidjan avec l'accueil du navire SMAGGM Rossini d'une longueur de 267 mètres, de 40 mètres de largeur et d'une capacité de 5770 conteneurs EPV. Le lancement des activités du second terminal intervient après les escales tests réalisées avec succès à la mi-octobre 2022. Ce projet a été réalisé grâce à un investissement global de 596 milliards de francs CFA, dont 334 dédiés aux travaux de terrassement à la charge du port d'Abidjan et 262 milliards de francs CFA consacrés aux superstructures. D'une superficie de 37,5 hectares, ce nouveau terminal dispose de 1100 mètres de quai avec un tirant d'eau de 16 mètres et d'équipements modernes lui permettant de traiter annuellement 1,5 million de conteneurs EPV. Sa mise en service va permettre d'une part d'accroître les échanges entre la Côte d'Ivoire et la sous-région, d'autre part de renforcer le corridor Côte d'Ivoire-Burkina Faso-Mali. Après un appel d'offres international, le consortium, évidemment Bolloré Port et APM Terminal, s'est vu confier la construction, la gestion du deuxième terminal à conteneurs du port d'Abidjan, grâce à un investissement de plus de 262 milliards de francs CFA. Les travaux de construction de futur terminal s'achèveront fin 2022.